Je reviens encore là-dessus, il faut le voir pour le croire. Hein? Je repense à notre première chanson, puis à tout ce que je viens de vous dire au sujet du complotisme qui est en train de polluer notre démocratie, même ici au Canada. Mais en tout cas, ben, on va faire un petit tour dans le passé avec Serge Bérardet. Serge, un paquebot dans l'espace. Alors, ça aussi, il faut le voir pour le croire, mais il y a des images vraiment de ça.
Oui, c'est lancé en 1936, le dirigeable Hindenburg, plus grand aéronef de l'histoire, promettait de traverser l'Atlantique en un temps record et dans le plus grand confort. L'ascension du plus léger que l'air a pris fin abruptement avec l'accident qui a coûté la vie à 36 personnes en 1937. Je sais pas, on a tous vu, tu as dû voir, puis Mathieu aussi, l'explosion du Hindenburg, ça a été filmé. Ça ne dit-tu rien? Ça vous dit-tu quelque chose?
Oui, bien sûr. C'est drôle parce que hier, André faisait l'éphéméride et puis on parlait justement de cet événement-là. Puis je me disais, il me semble que je l'ai vu. Puis tu sais, des fois, on se pose des questions parce que, avec l'âge, on pense que je l'ai-tu vu ou c'était une représentation cinématographique. Mais oui, on l'a vu, les images existent, effectivement. Ouais, je suis allé vérifier sur, après l'émission hier sur YouTube.
Alors, le Hindenburg était alors l'aéronef le plus impressionnant et le plus perfectionné de la planète. La traversée de l'Atlantique sur le rapide paquebot Queen Mary, pas le Queen Mary actuel, mais le Queen Mary 1, durait près de 5 jours. Avec le Hindenburg, on reliait Francfort à Lakehurst, au New Jersey, en 60 heures.
Quand même. Oui. Un petit peu plus long que l'avion.
Oui. Le 6 mai 1937, 13 des 36 passagers sont décédés. 22 des 61 membres d'équipage observateurs également et un membre de l'équipe au sol. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Les passagers témoigneront d'une traversée ouatée, sans mal de transport, à peine troublée par le vombrissement des moteurs accrochés loin derrière. Semble-t-il qu'il n'y a pas de poche d'air.
Oui, parce que ça peut être désagréable.
Oui.
Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai pris l'avion, puis on avait traversé une zone de turbulence. Et carrément, j'avais vu l'agent de bord, c'était une femme, et il y a eu une poche d'air, puis sérieux, elle s'est retrouvée au plafond, là. Puis elle est retombée après.
Jamais vécu aussi gros que ça, là. Mais j'en ai vécu un petit peu, une poche d'air, mais jamais aussi.
Donc, j'ai eu peur un peu. Je veux dire, j'ai rarement peur là, de ces trucs-là, mais ça, oui. Là, je me dis, OK, c'est peut-être moi le prochain, là. On va descendre, puis on va s'écraser.
Alors, parler de paquebot aérien, c'est pas exagéré. Le vaisseau s'étirait sur 245 mètres, seulement 24 mètres de moins que les 269 mètres du Titanic. Voyez-vous, cette structure-là de 245 mètres qui flottait dans les airs, ça devait être assez impressionnant.
Déjà que flotter sur l'eau, c'était déjà quelque chose de flotter dans les airs.
Ces 32 cabines, les salons et la salle à manger étaient répartis sur deux niveaux dans la partie inférieure de la structure. Et les aménagements incluaient une salle de lecture, un fumoir isolé à pression contrôlée, des toilettes et une douche. Pour plus de légèreté, le mobilier était fabriqué en tubes d'aluminium. Et même le piano à queue de bord était fait de ce métal. Je ne sais pas ce que ça donnait comme son, un piano en aluminium. Parce que le bois est comme... beaucoup privilégié pour le piano.
Mais tu l'expression, là, quand ça sonne cacane?
Oui, c'est ça. Les fenêtres inclinées pour s'intégrer dans le profil de la carène procuraient une vue vertigineuse sur le sol qu'il survolait à 200 mètres d'altitude. Son constructeur, la Luftschiffbau Zeppelin, pardonnez mon allemand,
ballon rouge,
avait été fondé en 1908 par un vieil aristocrate allemand dont le nom sera donné à cette classe de ballons à structure rigide, un nom repris plus tard par un groupe qui s'est élevé dans la stratosphère du rock. Zeppelin.
Led Zeppelin.
Les ballons dirigeables, donc capables de se mouvoir dans la direction voulue en dépit du vent, ont fait leur apparition avec l'invention du moteur à explosion à la fin du 19e siècle. Il ressemblait alors à un ballon de football rempli d'hydrogène sous lequel était suspendue une nacelle de pilotage. Le comte Ferdinand von Zeppelin, un militaire de carrière né en 1838, était convaincu que leur succès dépendait de leur taille. Et il a décidé de s'attaquer lui-même au défi. Voici le comte von Zeppelin, un beau monsieur.
Ah oui, avec une belle moustache. Puis la tête rasée, peu comme Mathieu.
Sans la moustache quand même.
Sans la moustache, oui. Mathieu, c'est plutôt la barbe.
Alors, comme on était encore dans l'Empire allemand, il est soutenu par une petite subvention de l'empereur Guillaume II plus l'aluminium et quelques fonds fournis par l'industriel Carl Berg, et il a fondé une petite société en mai 1898 et s'est entouré d'une poignée de talentueux ingénieurs. Sous sa direction, ils ont conçu une structure métallique, légère et profilée, constituée de longerons longitudinaux reliés par des anneaux périphériques. Recouverte d'une toile qui formait sa carène, cette structure retenait des ballonnets remplis d'hydrogène, un gaz plus léger que l'air, qui présentait toutefois le sérieux inconvénient d'être hautement inflammable en présence d'oxygène. Danger.
Ça s'explique cela.
Ouais. Von Zeppelin a construit un gigantesque hangar sur les rives du lac de Constance et a assemblé son premier Zeppelin long de 128 mètres. Le LZ-1 a effectué son premier vol en juillet 1900 sous les yeux de 12 000 témoins ébahis, on les comprend.
Ouais.
Trop fragile, il a été endommagé lors des tests menés en octobre, ce qui a mis fin à l'aventure. De nouveau soutenu par Carl Berg, Von Zeppelin a lancé en 1905 la construction d'une série d'aérostats plus solides et mieux motorisés. Le LZ-2 a été détruit au sol par une tempête. Le LZ-3 a volé avec succès, mais le LZ-4, dont les essais devaient lui garantir des contrats gouvernementaux, a brûlé en 1908, ruinant son entreprise. L'intérêt du public et la fierté nationale allemande avaient toutefois été titillés. Avec les dons qui affluaient, le vieux comte a regonflé son compte en banque.
Là?
Et il s'est reparti de plus belle. Pour rentabiliser ses appareils, il a fondé en 1909 la première compagnie aérienne de passagers de l'histoire, qui s'appelle DELAG, D-E-L-A-G. Et entre 1910 et le début de la Première Guerre mondiale, les quatre Zeppelins de DELAG ont transporté quelques 34 000 passagers.
Quand même pas rien.
Quand même impressionnant.
Ouais, ouais.
Sur plus de 1 500 vols, dont 10 197 ont payé leur passage. Il n'y a eu aucun blessé. Même si Zeppelin rêvait de transport civil, son principal client devient bientôt le gouvernement allemand. Ses dirigeables d'observation d'abord et de bombardement ensuite sèment la terreur dans le ciel anglais durant la Première Guerre mondiale. Il y a eu déjà des bombardements de la Première Guerre mondiale par des...
On est dans les dirigeables, mais pour les bombardements, c'était plutôt des aéronefs. Ouais. Là. Ouais.
On voit ici d'ailleurs une autre photo. Vous avez le dirigeable, puis en dessous, c'est la structure là, pour la cabine de commandement.
Ça a l'air d'une quille de bateau, hein?
Oui, tout à fait. Le vieux comte est mort en 1917 et le docteur Hugo Eckner a alors pris les commandes de la compagnie. Lancé en 1928, le LZ-127, baptisé Graf Zeppelin, mesurait 237 mètres de longueur, transportait 20 passagers et maintenait une vitesse de croisière de 115 km à l'heure, autant qu'un train express à l'époque.
C'était le TGV de l'air à l'époque.
Oui. Durant ses 9 années de service ininterrompues, soit l'équivalent de presque 2 ans en vol, il a franchi 1,7 million de kilomètres et transporté 13 110 passagers sans encombre. Très souvent commandé par Hugo Eckner lui-même, le Graf Zeppelin a effectué 144 traversées transocéaniques, dont 64 vols vers l'Amérique du Sud, réalisé un tour du monde et fait une expédition polaire. Il a quand même servi beaucoup. Le projet du LZ-129, le futur Hindenburg, a été lancé à la fin de 1930 et les concepteurs allemands entrevoyaient un dirigeable gigantesque, ils ont été servis, dont la taille lui permettrait d'accueillir une quantité suffisante d'hélium, un gaz inflammable mais rare qui procure 90% de la suspension de l'hydrogène.
C'est intéressant. Ouais. En tout cas, hein?
Ben, est-ce qu'il faut une petite pause là aussi?
Oui, on arrive à la fin. Mais tu restes avec nous parce qu'on va faire des petites questions tout à l'heure.
Oui.
Alors, on va aller à la pause. Mm-hmm. Dans quelques... En fait, nous, on revient avec une petite chanson qui va nous faire du bien. Puis on revient à toi et la fin de la chronique. Et aussi, je pense que tu as des petites questions à nous poser.
Oui.
C'est ton quiz de la semaine.
C'est l'occasion où
je montre que je ne sais rien. Mais c'est pas grave, je vais demander de l'aide à notre ami Mathieu pour que je puisse pas être tout seul, qu'il va se faire rire de lui un peu. C'est bien correct, on aime ça demain. En passant, avant de terminer cette première partie, je vais vous rappeler que le cardinal Marc Ouellet, il est poursuivi en France présentement. le cardinal donc est poursuivi par une religieuse de la congrégation des Dominicaines du Saint-Esprit de Pont-Callec en Bretagne, où elle vivait depuis 34 ans. Ben, au printemps 2021, elle a été mise à la porte, mais on lui a pas dit pourquoi. Puis elle essaie toujours de savoir pourquoi. Donc, elle a entrepris une cause devant les tribunaux. Il faut dire que cette religieuse-là s'est retrouvée carrément à la rue. Elle avait une religieuse, ils n'ont pas le droit à l'assurance chômage, aux services sociaux. Alors, elle s'est retrouvée à la rue. Et elle veut savoir pourquoi, puis elle aimerait bien retourner. Puis il n'y a personne dans la congrégation qui en parle. Et au bureau du cardinal, ben, on dit que ben, c'est une matière, c'est quelque chose qui est confidentiel, mais ça n'a pas rapport à des inconduites sexuelles ou des problèmes de mœurs, parce qu'on sait qu'il a été, il a démissionné, parce qu'il y a des allégations d'inconduites sexuelles contre lui ici à Montréal. Alors, c'est une nouvelle, je pense, qui est importante d'en parler, parce que ben, ça fait le tour de la planète, puis ça concerne quelqu'un qui y aurait pu... lors des derniers, les dernières élections au conclave, il aurait pu devenir pape.
Ouais.
Alors donc, on revient avec Serge après la pause et puis d'ici ce temps-là, ben, une petite musique aussi qui s'en vient. On va terminer la chronique, on parlait de ce dirigeable, donc le Graf Zeppelin.
Oui, alors le Hindenburg en chiffres, longueur 245 mètres,
ouais.
Diamètre 41,2 mètres, volume de gaz 200 000 mètres cubes. Mm-hmm. C'est du gaz.
Ouais, fait quand ça pète, ça...
Ouais. Ouais. Vitesse de croisière, 125 km/h, 4 moteurs Daimler-Benz à 16 cylindres, 40 officiers et hommes d'équipage, prenant quand même beaucoup de monde pour manœuvrer, 10 à 12 agents de bord et cuisiniers, et il y avait 72 passagers et 32 cabines. Et le drame de l'explosion est survenu à la deuxième traversée de la saison 1937. À son arrivée au New Jersey, le temps était humide et orageux, donc propice à l'accumulation d'électricité statique sur la toile imperméable et imperméabilisée de l'aréostat. Et il a pris feu lorsque ses câbles d'amarrage ont touché le sol. Bien que des rumeurs de sabotage aient circulé, il y a un film, Hindenburg, là, qui a été tourné dans les années 80, je pense.
Oui.
Hein? Michael York est dans ça. Et on voit, là, c'est eux ont mis l'accent sur le complot.
Oui.
Plus.
Mais il y a toujours des théories du complot sur absolument tout.
Mm-hmm. L'explication la plus probable demeure une fuite d'hydrogène sur un des ballonnets de gaz situés à l'arrière qui se serait enflammé ensuite en raison d'une décharge d'électricité statique. Et certains estimeront que l'équipage, soucieux de rattraper un retard peu flatteur pour le régime nazi, n'a pas respecté les sévères consignes de sécurité instaurées par Hugo Eckner. Et ça revient à la mode des dirigeables un petit peu. On les remet parce qu'on se rend compte que c'est très écologique.
Ouais.
Quand il n'y a pas d'explosion.
Oui, tout à fait.
Et ça sert quand même parce que les.
Non, on ne parle pas du festival des Montgolfières.
Non. En 1993, la Zeppelin Luftschifftechnik vouée au développement de dirigeables de nouvelles technologies et elle a fait le Zeppelin NT, un dirigeable semi-rigide de 75 mètres. Et le Royaume-Uni également a un projet aussi de dirigeable et on parle même d'un dirigeable qui pourrait transporter 100 personnes. Alors, c'est projet, c'est à suivre.
Ça serait peut-être une solution pour le trafic à Montréal.
Un
dirigeable entre Longueuil et Montréal.
Oui.
On parlait de théorie du complot. Je fais juste une parenthèse très rapidement, parce que vous savez qu'il y a une théorie du complot qui persiste au sujet du Titanic, parce qu'il y avait deux bateaux, le Titanic et l'Olympique.
Oui, l'Olympique, oui.
Et on pense que c'est l'Olympique qui a été... et qu'il y avait toute une théorie du complot pour cacher tout ça. Évidemment, ça ne tient pas la route, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours des théories du complot. Hein, c'est comme ça. Bon, on va partir du complot, puis on va aller compléter. Ah, mon Dieu, c'est un petit peu étiré comme lien. Je vois Mathieu qui roule les yeux dans le plafond.
Je fronce la moustache.
Et là, on va faire le quiz de la semaine.
Oui.
Allons-y. Mathieu, allume ton micro.
Je suis là.
C'est bon.
Alors, je vous parle depuis deux semaines, trois semaines, genre l'histoire des expressions françaises. Mm-hmm. Alors, j'en ai un, deux, trois, j'en ai cinq ici. Je vous les nomme, là, puis vous me direz, vous ferez un choix sur ce que vous aimeriez connaître de l'origine.
Ah.
Alors, il y a « verser des larmes de crocodile
».
On y soit qui mal y pense, crier Eureka, un spécial chandelle, Et le chant du cygne. Est-ce que ça, vous avez tout entendu ces expressions-là ou si oui. Y en a, vous n'avez pas entendu?
Oui, oui, moi j'ai tout entendu.
Moi, le cygne de la chandelle, je dois avouer que ça ne me dit absolument rien.
Ah, ouais. Ben on va y aller. Allons-y, spécial chandelle.
Oui,
je faut trouver le chandelier. C'est pas un spécial Liberace,
spécial chandelle, oui, c'est ça. C'est que, pouvez-vous me donner toutes les expressions qui sont reliées à la chandelle?
Brûler la chandelle par les deux
ouais.
Bouts.
Oui,
un petit peu.
Devoir une fière chandelle.
Oui.
Faire des économies.
Des bouts de chandelle.
Des bouts de chandelle. Oui. Le jeu.
Ne vaut pas la chandelle.
Ah, il était meilleur que moi, j'arrive.
Ben, en fait, il faut qu'il m'aide à commencer l'expression, je la complète parce que comme ça.
Moucher la chandelle, ça, je l'entends pas.
Moi, j'avais jamais entendu celle-là, ouais.
Et être de mèche et vendre la mèche.
Ah oui.
La mèche de la chandelle.
Ouais.
Alors, vu le nombre d'expressions liées au mot chandelle, cela nous prouve toute l'importance de l'objet pendant des siècles.
Ouais.
Et plus que l'objet en lui-même, c'est la lumière qui fascine.
Tout à fait.
Elle est plus commode et la chandelle est plus commode à transporter pour se déplacer que la lampe à l'huile qui existait depuis des siècles.
Ouais. Puis il n'y avait pas les lampes de poche.
Non, c'est ça.
Ou les téléphones avec la lumière.
Oui. La chandelle est donc un objet rare et précieux que l'on brûle avec parcimonie pour ne pas la gâcher. Voilà pourquoi brûler la chandelle par les deux bouts est synonyme de perte stupide et inutile d'argent. Oui, c'est du gâchis.
Ouais.
Le brûler la chandelle par les deux.
Mais on dit ça à quelqu'un qui travaille trop.
Oui, ou qui a une vie oléolée.
Ah oui. Bon, moi, c'est parce que je travaille trop.
Ouais.
Et c'est ma vérité, comme
ouais.
Tu dis. Mathieu, est-ce que tu brûles la chandelle par les
non,
deux
non, je suis sage. De toute façon, je suis une lampe à l'huile, donc je...
Ah, bon. On ne demandera pas les preuves, là, mais on va accepter non. La version.
Ah, on va prendre cette vérité-là.
Ouais.
Pour du cash.
Oui, alors, c'est aussi pourquoi le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout si c'est pour perdre son argent dans des salles de jeu ou des tripots éclairés à la chandelle, le soir, ou durant la journée dans les arrière-salles de cercles malfamés. Le prix dépensé en chandelle est rarement, pour ne pas dire jamais, remboursé par les gains hypothétiques au jeu. Et d'affirmer ce vieil adage devenu une expression est histoire de rendre service à ses contemporains qui évitent bien des déconvenus à leurs contemporains qui, du coup, leur doivent une fière chandelle. C'est une façon de remercier celles et ceux qui pensent à vous en vous empêchant de faire des bêtises ou de commettre des impairs. Il existe encore une expression célèbre liée à la chandelle, c'est « faire des économies de bouts de chandelle ». Celle-là, je trouve c'est la plus intéressante. C'est que c'est né à une époque où l'éclairage public s'effectue à la lueur des chandelles installées dans des lanternes dans les rues. Hein. Et donc, ça prenait quelqu'un pour poser les chandelles puis les allumer. Et c'était pas tous des messieurs honnêtes, là.
Ah ouais?
Voilà ce qui se passait.
Ah, ça c'est... Hein? Où il y a de l'homme,
ouais.
Il y a de l'hommerie. J'aimerais savoir d'où ça vient, cette expression-là.
Ah,
c'est
ouais.
Peut-être un devoir pour toi, Serge.
Ah, ouais. Certains d'entre eux prennent la fâcheuse habitude de faire un petit trou dans la chandelle et d'y glisser une goutte d'eau. Une fois le petit trou refermé avec un petit morceau de suif, impossible de voir la supercherie. Car il s'agit bien d'une tromperie qui vise à éteindre la chandelle quand la mèche humide est atteinte. Donc, on perce le trou à la moitié ou deux tiers. Et il faut alors changer la chandelle et l'allumeur conserve pour son usage personnel le morceau ainsi récupéré.
Des économies de bouts de chandelle.
Aïe,
aïe, aïe.
Parfois, un ami peut être de mèche, donc complice, alors qu'un témoin racontant ce qu'il a vu peut vendre la mèche. Et en plus... Il n'a pas eu besoin de moucher la chandelle, c'est-à-dire de l'éteindre comme on le fait à l'époque pour renouveler l'éclairage, comme dans les théâtres ou les salles de bal.
Wow.
C'était ça, moucher la chandelle.
Bon, écoute, on va sortir d'ici plus intelligent. On a le temps pour une autre. Alors, moi, j'aimerais ça que tu nous parles de verser des larmes de crocodile, parce qu'il me semble que j'ai jamais vu un crocodile pleurer, là.
Oui, ben...
Puis je suis allé en Louisiane.
Oui, les crocodiles, oui, ils pleurent.
Ah oui?
Oui.
Ben, je me suis pas assez approché. Puis on comprend pourquoi, pour voir les larmes.
Je vais nuancer ça, là.
Okay.
Le crocodile est le plus évolué des reptiles vivants. La majorité de ces charmants animaux, le crocodile est un grand reptile avec une tête puissante, un corps lourd, des pattes robustes et une queue épaisse et généralement plus longue que le corps. Bref, vous l'avez compris, les crocodiles sont des animaux dangereux, d'autant plus que ce sont des carnivores. Et parmi eux, le célèbre crocodile du Nil. Cléopâtre jetait ses, les gens dont elle voulait se débarrasser au crocodile dans le Nil.
Ben oui.
Dit-on.
C'est quoi la chanson dont, dans Astérix et Cléopâtre, que demain sur les bords du Nil...
Que mangeront les crocodiles?
Des Gaulois. Alors, j'ai vraiment une grande culture, hein, je vous dis oui, ça, oui. Hein, avec les bandes dessinées.
Nous constatons. Ben oui, c'est ça. Depuis bien longtemps, les habitants des rives du Nil ont appris à se méfier de ce crocodile qui a la réputation de s'attaquer parfois à l'homme et notamment aux porteurs d'eau. Mm. Une très ancienne histoire raconte que ce terrible animal pousse des cris ressemblant à des pleurs d'enfants dans le but d'attirer vers lui les proies humaines.
Ah.
En imitant des pleurs d'enfants, ben, celui qui se promène, il y a un bébé qui est perdu, je vais aller le chercher. Et c'est M. Conrad Gessner, un médecin suisse qui a vécu au 16e siècle et qui a laissé une œuvre capitale qu'il a intitulée « Histoire des animaux ». Dans cet ouvrage, on peut lire ces quelques mots significatifs. « Quand un crocodile voit de loin un homme, il se met à pleurer pour sans doute l'attirer, puis il le dévore. » Alors, sans s'attarder sur de telles affirmations, souvenons-nous qu'elles sont à l'origine de l'une de nos expressions populaires, « verser des larmes de crocodile ».
Ah là là.
Larmes bien souvent hypocrites et destinées surtout à émouvoir et à tromper son monde.
Ben, on...
Sniff, sniff.
Merci beaucoup, Serge Bradette. On se voit la semaine prochaine.
Absolument, t'es parfaitement.
Absolument. On va avoir du plaisir encore et un autre quiz qui nous attend. Vous avez entendu au début de cette deuxième partie d'émission la chanson Kid d'Eddie Depreto. Eh bien, moi, je vous en propose une autre version qui a été adaptée par Barbara Depravi.